Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Et si Internet était rationné? Écran noir, plus de gigas, plus d'accès aux réseaux sociaux, aux films ou au shopping en ligne. Cauchemar ou mesure de santé publique? Dans une tribune, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, fait une proposition choc, limiter l'utilisation d'Internet à 3 gigas par semaine.
Comme nous sommes incapables de nous poser des limites, il faut que la contrainte vienne d'ailleurs, donc de la loi, donc de l'État.
Mais sommes-nous vraiment accros aux écrans? Combien de temps passons-nous chaque semaine sur notre smartphone ou notre ordinateur? Une petite idée?
Je dirais peut-être 20 heures, 30 heures, 60 heures.
Presque, nous y passons 56 heures par semaine. Selon une étude de 2021, cela représente 27 ans de votre vie passée sur Internet ou les écrans. Une surexposition qui n'épargne pas les enfants, avec des conséquences notamment sur la concentration et le sommeil.
Je la sens super énervée quand elle regarde trop l'écran, en fait. Et ça, je l'ai vu depuis qu'elle est toute petite.
Mais ils sont accros de la télé et le téléphone, en plus, c'est ça.
Les parents abandonnent, là, de ce côté-là, moi, je pense. Hein. C'est la solution de facilité.
Comment les familles peuvent-elles reprendre le contrôle des écrans? En janvier, Emmanuel Macron a mandaté des experts pour proposer des solutions, voire des restrictions. En attendant, certains parents ont déjà pris des mesures.
Les parents, ils peuvent bloquer les applications, ils peuvent mettre un temps sur les applications. Genre, ils peuvent bloquer quand ils veulent. Genre, ils appuient sur un bouton et ça se bloque, genre.
Alors, faudrait-il un bouton pour bloquer Internet pour les petits et les grands? Faut-il se rationner pour se désintoxiquer? Internet et les réseaux sociaux sont-ils un fléau ou une richesse?
Eh bien, on va en débattre avec vous trois, et à commencer par vous, Najat Vallaud-Belkacem, avec votre téléphone sur la table d'ailleurs, ancienne ministre de l'Éducation nationale, vous le fûtes de 2014 à 2017. Bonsoir. Votre tribune « Libérons-nous des écrans, rationnons Internet » est à lire dans le Figaro. Votre ouvrage, coécrit avec François Dubet, « Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme » est paru au Seuil. Selon vous, rationner l'accès à Internet serait bénéfique pour tous en termes de développement cognitif, pour la santé, mais aussi pour lutter contre les discriminations et le harcèlement. La rareté oblige à une certaine sagesse. Ajoutez-vous, c'est peut-être une utopie. À côté de vous, Gilles Babinet, bonsoir monsieur, vous êtes président du Conseil national du numérique. Votre ouvrage Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat va paraître la semaine prochaine aux éditions Odile Jacob. Vous allez nous le signer, nous le laisser. Vous avez aussi votre téléphone sur la table. Et selon vous, cette idée de rationnement est absurde. Internet est au cœur de nos vies. C'est de l'oxygène qui nous invite à repenser notre accès à la connaissance. Est-ce qu'on a pensé à rationner l'électricité? Non, encore heureux, sinon on s'éclairait aux chandelles. Alors, Michael Stora est notre troisième invité. Bonsoir, psychanalyste, bonsoir. Fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Votre ouvrage « Les réseaux asociaux » est paru aux éditions Larousse. Selon vous, l'addiction causée par les réseaux sociaux est un vrai débat et elle est réelle, mais la contrainte ne doit pas venir de l'État. Avec un rationnement, il y aurait un risque d'infantilisation des citoyens que nous sommes. Travaillons à l'éducation numérique, c'est une meilleure solution. Et on démarre avec donc la déclaration du jour.
C'est aussi la vôtre, oui. Najat Vallaud-Belkacem. Sur Internet, ce n'est jamais l'intelligence qui l'emporte. C'est ce que vous dites donc, notamment à la tribune, au cœur de ce débat. Alors tout le monde ou presque vous est tombé dessus. Mais tout de même, est-ce que ce n'était pas un peu manichéen, univoque comme conclusion? L'intelligence, ce n'est pas sur Internet.
Alors d'abord, cette tribune, elle a vocation à quoi? À poser le débat. Soyons clairs, hein, il ne s'agit absolument pas de venir de façon dirigiste dire « voilà ce qu'il faut faire ». Au contraire, elle ouvre beaucoup la réflexion et j'espère la conversation. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression que l'objectif est plutôt atteint, avec peut-être un premier constat, commençons par là. Je veux dire, c'est extrêmement préoccupant ce qui se passe dans notre rapport aux écrans. Qui me dira le contraire? Et cela vaut pour les enfants, on en a beaucoup parlé dans votre sujet, comme pour les adultes, soyons honnêtes. C'est à la fois de la captation d'attention, du guidage des émotions, ça pose un certain nombre de problèmes démocratiques, on le sait bien, avec notamment les manipulations diverses et variées. Mais c'est aussi, plus généralement, une violence en ligne qui se déploie. Je vais vous donner juste quelques chiffres, si vous me permettez, parce qu'il y a une enquête qui vient de sortir aux États-Unis de la part d'un chercheur qui s'appelle Jonathan Haidt, que je vous conseille vraiment d'aller regarder, qui vous montre comment les choses se sont précipitées ces dernières années. Sur ces 10 dernières années, vous avez une augmentation des dépressions et de l'anxiété qui a été augmentée de 50%. Vous avez un taux de suicide chez les 10-19 ans qui a été augmenté de plus 48%.
Rien à voir avec le Covid, ça. Ça, c'est indépendant du Covid.
Et en fait, il fait justement tout ce travail d'investigation et il constate qu'en fait, c'est ce qui se passe en ligne et c'est le rapport aux écrans. Et pardon, juste pour rester sur le taux de suicide, chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, ce taux de suicide a été augmenté ces 10 dernières années de plus 130%. Franchement, on ne peut pas juste se désintéresser du sujet et considérer que ce n'est pas un sujet politique. Alors certains me disent, j'ai bien vu les commentaires qui ont été faits, mais c'est aux internautes, à ceux qui utilisent le numérique, de se s'autoréguler. Mais pardon, mais vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au moment où on s'est rendu compte que les accidents de la route étaient une calamité, à ces gens qui disaient ils n'avaient qu'à conduire plus prudemment qui refusaient qu'on instaure des régulations comme la ceinture
de sécurité. Justement. Vous entendez cet argument de l'autorégulation, c'est un mythe. C'est vrai que c'est compliqué pour nous tous de nous autoréguler.
Oui, écoutez, moi je suis très gêné parce que je... À mains égards, je pourrais être d'accord avec vous, mais sur le fond,
Sur le diagnostic, vous êtes d'accord?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, les chiffres du Pew, on les a sortis à l'Institut Montaigne il y a 6 ans. Ouais. Ils sont affolants et je crois que c'est... Après, corrélation ne vaut pas causation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on observe une explosion du suicide adolescent aux États-Unis qu'on a démontré aujourd'hui qu'il y avait un lien absolu avec l'usage des écrans. Il y a une vraisemblance assez forte à cet égard, mais... Je trouve, en fait, ce qui me gêne, c'est cette argumentation qui consiste à dire on contrôle le temps. C'est une antithèse de ce que la recherche dit. Voilà, la recherche, tout ce qui existe là-dessus, la seule chose qu'a trouvé la recherche à propos d'addiction à l'égard des écrans, c'est concernant le jeu vidéo. Là, on a des travaux qui sont un peu académiques, assez sérieux là-dessus. Pour le reste, ça n'existe pas. Mais surtout, il existe tout un tas d'éléments sur lesquels on pourrait travailler en tant que régulateur, qui sont la recommandation. On parle de dégroupage de la recommandation, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soient plus les plateformes qui fassent la recommandation. Ça, c'est un vrai sujet. Et j'ai envie de vous dire, ça n'est pas vrai de dire que c'est jamais l'intelligence qui l'emporte. Je veux dire, moi,
Quant à ce que propose Internet et le numérique au sens large, c'est ça que vous dites.
Si vous voulez, je trouve ça extrêmement ostraciste. C'est-à-dire, finalement, si vous ne lisez pas Molière le soir, en fait, vous n'êtes pas dans le coup. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça, moi, que je me bats, que je me lève le matin. C'est justement de faire en sorte que ce soit l'intelligence qui l'emporte. Et je suis en désaccord fondamental avec vous lorsque vous dites ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui accèdent. Je veux dire, je pourrais même vous mettre une accusation assez brutale de dire... Vous avez été ministre de l'Éducation, mais est-ce que vous êtes assuré que la mobilité sociale remontait? Non, la mobilité sociale décroît dans l'éducation. Donc, aller déporter le coup sur les plateformes et sur les réseaux sociaux, je trouve ça un peu fort de café, pour être franc. C'est vraiment...
Alors, on ne va pas faire un bilan de votre rôle de ministre de l'Éducation entre 2014 et 2017. Hein.
Je m'en suis souciée, mais...
Restons quand même sur le sujet de l'addiction et de comment s'en prévenir.
Michael Stora, qu'est-ce que vous constatez, vous, en tant que psychanalyste, fondateur de cet observatoire? Est-ce qu'en effet, Internet, c'est le repli sur soi? C'est la bulle cognitive? Est-ce que c'est cela que vous constatez?
Oui. Oui, évidemment, je pense que...
Chez les ados et chez les adultes?
Bien sûr, ouais. D'ailleurs la revue Wired, qui est une revue très réputée américaine, a montré que les plus connectés, ce sont les 35-49 ans. À l'inverse de ce que l'on croit, même si en effet, il y a toujours ce phénomène de projection des parents par culpabilité. Je crois que d'un côté, le problème de la question du temps d'utilisation n'est pas forcément la meilleure des réponses, même si c'est
intéressant. C'est-à-dire limiter le temps, contraindre le temps?
La question du temps, passer dessus. Mais ce qui est vrai, c'est que oui, en tout cas dans mon livre, je l'évoque, c'est-à-dire qu'il y a des ressorts addictogènes puissants, ce qu'on appelle la captologie de l'attention, puisque le nouveau modèle économique, c'est l'économie de l'attention, donc il faut y rester le plus longtemps possible. Et il y a des stratégies totalement diaboliques qui, en effet, est-ce qu'elles viennent révéler qu'il y a d'autres problèmes plus profonds que nous, on observe en pédopsie depuis peut-être 10-15 ans, c'est-à-dire aussi une tendance, par exemple... à la question au fond de cette forme d'idéal, de réussite, de performance, de beauté, de bien-être à tout prix. D'ailleurs, la grande étude qui est parue dernièrement, vous savez, sur la santé des jeunes de l'Université de Bordeaux, où 41,6% des 18-24 ans évoquent qu'ils vont mal, ce qu'ils mettent en premier, c'est cette question-là. C'est la question de la pression. Il y a des formes de réussite.
Et je crois sont véhiculées par les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux amplifient. C'est ça la question. Ils viennent amplifier des phénomènes très nord-californiens, disons les choses aussi, qui sont aussi une culture de la réussite, du so amazing, de beaucoup de choses qui finalement ne vont pas forcément en lien, même si la France est un pays très élitiste aussi.
Najat Vallaud-Belkacem, pour revenir sur votre proposition, le cœur de proposition, parce que c'est très concret, c'est 3 gigaoctets maximum d'Internet par semaine, mais ça paraît arbitraire, on se dit mais pourquoi ce chiffre-là plutôt qu'un autre ?
Alors, je ne sais pas si vous avez lu la Tribune.
Parce que, ça, on l'a lu.
Et je vous remercie alors dans ce cas-là.
Quand même.
Mais je voudrais juste préciser une chose importante. C'est que dans cette Tribune, je ne propose pas qu'on limite à 3 gigaoctets par semaine. C'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, je mène une réflexion, je pousse jusqu'à l'absurde cette réflexion.
Oui. Mais il y a le chiffre, il est écrit.
Il nous faut nous rationner.
Oui.
Imaginons que nous soyons limités. Que ferions-nous de ce temps limité ? En fait, moi, j'aborde la question de la consommation. Ce n'est pas la question de la liberté d'expression ou que sais-je, c'est la question de la consommation. De la même façon que quand on sait que la consommation de tel ou tel produit est problématique pour notre santé, mettons glyphosate, par exemple, eh bien, on va réguler, on va limiter cette consommation-là. Eh bien, de la même façon, dès lors qu'il est avéré que c'est problématique de passer autant de temps devant les écrans, si nous nous rationnions, si nous avions, en effet, moins de consommation, comment prioriserions-nous ? L'histoire des 3 gigas, donc je la prends comme un absurde.
Regardez le graphique, c'est-à-dire qu'il y a 3 gigaoctets. Alors, en moyenne, combien on consomme aujourd'hui ? C'est 4 gigaoctets par utilisateur sur un téléphone portable, 55 gigaoctets par foyer.
Un smartphone, et par semaine.
Non, mais absolument. mais j'ai envie de vous dire, Benjamin, j'ai envie de vous dire, on pourrait écrire même 300 gigas, ça ne changerait pas le sujet, puisque en fait, ce qui va se développer dans les prochaines années, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'offres, de plus en plus de gigaoctets, et que en fait, cette machine ne s'arrêtera jamais. Elle est infernale. Mm-hmm. De plus en plus de bandes passantes, de plus en plus de stockage, de plus en plus de captation de notre attention. Donc, en fait, vous prenez un autre chiffre si vous voulez. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une conversation collective où on se dit que pour notre bien-être, c'est positif de ne pas passer l'essentiel de notre temps devant des écrans.
Mais dans votre, selon vous, c'est plutôt TikTok que Wikipédia, c'est plutôt les réseaux tels, TikTok, Instagram, que des plateformes comme Wikipédia qui procurent justement une diffusion de la connaissance.
Alors, c'est
ça qu'il faut restreindre.
Mon intuition, c'est qu'en effet, si nous avions un temps plus limité, nous l'utiliserions mieux. Vous voyez qu'en fait, je fais confiance à l'intelligence des gens.
Gilles Babinet.
Écoutez,
dont le téléphone sonne. Ce n'est pas mis en scène. Vous serez puni et fouetté car vous allez le mettre sur mode avion, Gilles Babinet. Sinon, ça va créer des, ça va créer des parasites.
La rareté oblige à une certaine sagesse.
Je pense que c'est elle qui m'appelle pour me déstabiliser au moment de la fin.
Non, Gilles Babinet.
Non, écoutez, encore une fois, je suis très en désaccord avec tout ça. Je pense qu'on vient de voir à l'instant que la notion de temps n'est pas à la bonne échelle. La notion d'octet n'est pas non plus.
Alors, quel est le bon paramètre ou le bon...
Vous pouvez avoir des réseaux qui sont extrêmement peu quantitatifs en données. Je pense par exemple à Twitter, et qui peuvent être extrêmement corrosifs, extrêmement agressifs, extrêmement déstabilisants. Et donc, c'est pas le bon paramètre.
Mais pourquoi c'est pas le bon paramètre ? Pardon. Il n'y a pas des contraintes positives ? On regardait, par exemple, à l'école aujourd'hui, dans certaines écoles, il y a 15 minutes de lecture obligatoire pour des enfants. Et ça développe la lecture et l'intérêt pour la lecture. Donc, on se dit que parfois, il y a des contraintes nécessaires. Pourquoi le temps n'en serait-elle pas une ?
Je ne suis pas du tout opposé à la notion de contrainte. Je dis juste qu'il faut poser les bases du débat sur des paramètres qui sont, dans la mesure du possible, académiques, scientifiques, etc. Et que ces deux paramètres sont faux.
Alors, quels pourraient être ces paramètres ?
C'est au Conseil national du numérique, on a publié un rapport qui s'appelle « Notre attention, s'il vous plaît », où on, précisément, la première partie de l'ouvrage est sur cet aspect de quels pourraient être les bons paramètres. Donc je regrette que ce ne soit pas l'objet du débat ici, mais on explique effectivement que la complexité, notre capacité à appréhender la complexité est un élément essentiel d'épanouissement et que... Mais voilà, c'est un paramètre qui n'existe pas toujours dans beaucoup de réseaux sociaux. En tout cas, la façon dont les algorithmes sont conçus font que ça mobilise certaines capacités cognitives et qui ne sont pas forcément celles qui nous permettent d'appréhender la complexité. Voilà, évidemment, c'est plus compliqué à énoncer dans une tribune, dans le Figaro. Je suis désolé, mais je suis gêné parce que si on doit faire de l'esclandre pour interpeller, pour qu'il y ait sur 28 minutes finalement un débat sur ce sujet.
C'est pas l'esprit du lieu, mais.
Ben, je suis un peu gêné parce que oui. Je trouve que c'est mal posé. Bon. Les questions qui sont mal posées font qu'à la fin, on ne débat pas des bonnes solutions.
Bon. Ben, on va débattons des solutions. On est là aussi pour ça, Michael Stora. C'est vrai qu'est-ce qu'il y a une incompatibilité entre le temps, gérer le temps, rendre un temps plus imparti, et l'éducation et la prévention?
Alors, j'aimerais faire part d'une dernière étude parue par l'INSERM et qui a été publiée et relayée dans un American Pediatric,
oui.
Qui montre que finalement, ce n'est pas tant le temps d'écran, mais c'est le contexte dans lequel on regarde les écrans. Enfin, là, ça veut dire qu'on est dans une problématique plus compliquée, qui est celle finalement du contexte culturel, psychologique, social, dans lequel, justement, l'écran fait écran. Sur d'autres problématiques plus lourdes, sociales, et je dirais que c'est un problème politique. Je pense que vous avez eu raison, à travers ce que vous avez proposé, de manière assez provocante, de reposer une vraie question sur, finalement, voilà, la manière dont, comment est-ce que ces écrans viennent, malheureusement, créer un bonheur numérique pour suppléer un malheur bien réel. Parce que c'est une réalité. J'ai été interrogé par un grand groupe du GAFAM sur la question du bonheur numérique. Parce que ce qu'ils souhaitent, c'est notre bonheur. Au détriment du bonheur. Non, mais si. Au détriment du bonheur réel.
Lorsque les GAFAM de la Silicon Valley souhaitent notre bonheur.
Le bonheur, c'est un bonheur qui engendre beaucoup d'argent.
Bien sûr.
Mais on sait très bien, donc ne soyons pas naïfs. Donc ce qui est vrai, c'est que comment arriver à capter l'intelligence des jeunes et des parents par rapport à cette capacité à pouvoir se dire qu'on a le droit de se distraire. Moi, je ne pense pas qu'on se distrait totalement forcément sur Wikipédia. On peut avoir TikTok et se distraire. Mais néanmoins, et je suis contre certains ayatollahs de la déconnexion à tout prix, parce que je trouve que c'est excessif et c'est très culpabilisant, et beaucoup de parents se sentent tout le temps coupables, ils sont épuisés, qu'on n'arrête pas de leur donner des injonctions.
Vous avez entendu les critiques qui vous sont faites, notamment la comparaison avec la Chine. Le seul pays qui aujourd'hui a vraiment limité l'accès, notamment pour les jeunes, c'est ce pays-là. Donc on dit c'est autoritaire, donc inefficace. Ou en tous les cas, c'est une forme de censure. C'est ça qu'on vous oppose aussi.
Mais comme je le dis dans le texte, vous savez, en Chine, on soigne les gens. C'est pas pour autant qu'on va fermer les hôpitaux chez nous, parce qu'il faudrait pas faire comme les Chinois. Vous voyez, à un moment donné... Les observateurs qui s'intéressent de près au sujet vous disent que les enfants chinois, en réalité, ils sont confrontés à des contenus de meilleure qualité compte tenu de la réglementation qui a été mise en place. Et vous savez qu'ils n'ont pas accès au même type de TikTok que celui
que nous avons
nos enfants, n'est-ce pas? Donc ça, déjà, ça devrait vous interroger sur les manipulations, parce que c'est aussi des manipulations géopolitiques. Moi, je pense qu'il faut qu'on se protège. À partir du moment où on est d'accord pour reconnaître que nous sommes influençables et que les entreprises, les GAFAM, etc., les entreprises de technologie l'ont parfaitement compris et qu'elles nous manipulent pour retenir notre attention, même parfois sous des dehors tout à fait anodins. Vous êtes en train de regarder une série Netflix, comme par hasard, le prochain épisode va se lancer directement, l'algorithme va vous présenter des choses. C'est des choix contraints. Votre liberté est cannibalisée. Donc reconnaissons que nous sommes influençables et apprenons à nous protéger de tout cela.
Gilles Babinet, vous avez les yeux au ciel que vous avez entendu parler de la Chine. Et par ailleurs, sur les contraintes, sur cette idée de la
contrainte. Les Chinois ont accès à de la propagande de meilleure qualité, parce que c'est de la propagande.
Les enfants, les élèves chinois.
Non, mais c'est
du contenu éducatif.
Ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous comparez une dictature avec une démocratie, et vous dites que les contenus dans une dictature sont de meilleure qualité. C'est ce que vous avez dit.
Je suis quand même très étonnée, parce que, a priori, le Conseil du numérique s'intéresse quand même à ce qui se passe, en effet, en Chine, s'agissant, encore une fois, des contenus éducatifs qui sont offerts aux enfants. Et vous savez très bien qu'il y a cette différence évidente. Enfin, j'invite tout le monde à se renseigner pour
Fantastique.
Comprendre.
Fantastique. Les bras m'en tombent. Pour être vraiment franc, au-delà de ça,
la contrainte.
Là où on se rejoint, c'est, je pense que, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de... Si on veut vraiment être... ambitieux, audacieux, le fait de contrôler les algorithmes qui sont à l'origine de ce que l'on observe sur ces réseaux, ça c'est quelque chose qui serait une contrainte forte sur les plateformes.
Très bien. Bon, alors là vous retrouvez sur quelque chose. Alors attendez, on va vous soumettre un autre exemple, ça se passe en Espagne, on va en parler avec Anna. Interdiction du portable au moins de... Alors, c'est encore coercitif, l'interdiction du portable au moins de 16 ans. Le débat est ouvert en Espagne.
Exactement, parce que chez nos voisins, eh bien, la rentrée au collège va souvent de pair avec l'obtention du premier téléphone portable. La preuve, la moitié des enfants de 11 ans ont un téléphone. À 12 ans, ce pourcentage monte à 75% et à 13 ans, à 88%. Sauf que les dangers sont là. Depuis quelques mois, l'Espagne fait face à plusieurs cas de harcèlement en ligne dans les collèges et lycées, ou encore à des partages de fausses photos de jeunes filles dénudées sur les réseaux sociaux. Alors des parents inquiets de Barcelone se sont mobilisés avec un mouvement qui s'appelle Adolescents sans portable. Ils veulent inciter les familles à ne pas acheter de portable à leurs enfants avant 16 ans. Et ils réclament en plus l'interdiction totale du portable au lycée. Alors, interdire le portable à l'école, ce n'est pas quelque chose de nouveau en Espagne. Là-bas, l'éducation est décentralisée. Donc, des communautés autonomes ont déjà fait ce choix. Les régions de Castille-la-Manche et de Galice ont interdit respectivement le téléphone en classe en 2014 et 2015. Et la région de Madrid en 2020 est allée plus loin en l'interdisant aussi dans les couloirs, aux toilettes et dans les cours de récréation. Mi-décembre, la ministre de l'Éducation nationale, Pilar Alegría, s'est emparée du sujet. Elle a souhaité généraliser ses pratiques à toute l'Espagne et elle a proposé, je la cite, l'usage zéro du mobile durant les heures de cours en primaire et dans le secondaire, donc collège et lycée. Et en France, c'est déjà le cas au primaire et au collège depuis 2018. Michael Sorin, chez nous, est-ce que ce serait souhaitable, par exemple, d'interdire l'achat d'un téléphone avant 15 ou 16 ans ?
Alors, c'est une grande question et ça fait partie de ces grands questionnements. À quel âge doit-on, puisqu'on sait que je crois qu'en France, c'est 9 ans. Hein. Ouais. C'est très, très jeune. Et ça pose des vraies questions, c'est-à-dire, au fond, le portable comme un fil à la patte, les parents utilisant le portable comme un outil de surveillance.
Exactement, comme un outil de surveillance.
On le sait. Comment est-ce que, au fond, le rituel d'offrir un portable sera un nouveau type de rituel en disant, voilà, c'est un outil d'autonomisation.
C'est un passage.
C'est un passage.
Rituel.
Après, c'est une question qui se pose, c'est-à-dire avec même la commission qui est en train d'avoir lieu, nommée par Emmanuel Macron, suite à sa conférence de presse. Mmh. C'est-à-dire quand l'État cherche à être ce qu'on appellera en psychanalyse un grand surmoi, entre autres parental. Et la parentalité, avec laquelle je travaille beaucoup, est très infantilisée. Mmh. Au fond, on la déresponsabilise. Et mon travail, c'est comment travailler, comment aider les parents à retrouver une place de responsabilité citoyenne vis-à-vis des enfants et dans leur capacité, pourquoi pas, mettre des limites. Quand l'État commence à mettre des limites et vient dans la vie privée des parents, là, ça me pose il y a vraiment un souci qui est peut-être justement cette tendance très verticale à infantiliser les parents.
Najat Vallaud-Belkacem, vous avez limité votre usage de téléphone?
Pour conclure, votre voisin.
Je le redis, cette tribune que j'ai rédigée s'adressait aussi à moi.
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, elle commence comme ça, commence par « j'ai un problème ». Parce que beaucoup d'observateurs ont dit « mais elle donne des leçons à la terre entière », mais pas du tout, c'est aussi c'est nous tous en réalité. Donc moi, juste sur les parents, pour conclure, je suis, en tant que parent, confrontée exactement à tous ces questionnements-là. J'observe ce que vous avez décrit en Espagne, que ces mouvements sont en train d'arriver aussi chez nous. Dans de nombreux pays, vous avez même des parents qui font des procès contre TikTok, etc., en justice, compte tenu des effets terribles sur la santé mentale de leurs enfants. Moi, je pense que les parents, en fait, ils doivent être en effet accompagnés. Ils sont complètement dépassés. Ce sujet est devenu le sujet numéro un de tension familiale. Tu as trop fait d'écran, pas assez, etc. Donc, il faut qu'ils soient accompagnés. Et pour être bien accompagnés, il faut qu'il y ait une norme qui vienne du haut.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Vous pourrez ressortir vos téléphones portables dans les coulisses du plateau. Pour certains, ils les ont avec eux. Merci encore de votre humour et de votre discussion à tous les trois.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.